Bonjour les coquettes.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Alors pour celles qui ne vous connaîtriez pas encore, vous êtes un trio de chanteuses et d'humoristes, on peut dire aussi,
oui,
les trois.
Ouais.
Juliette Faucon, Lola Sess, Marie Facundo.
Oui. Oui, tout à fait.
Bravo.
Et vous avez commencé il n'y a pas très longtemps pour finir.
En fait, les coquettes, ça fait quatre.
C'est notre quatrième saison.
C'est un succès formidable.
Vous avez du talent, surtout.
Merci. Mais en tout cas, nous, on ne cache pas notre bonheur. C'est-à-dire que quand on a fait le Grand Axe, par exemple, le 14 février, je veux dire, on est rentrés, on était déjà contentes avant même d'avoir joué.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les femmes, alors, si vous aviez une chose à faire?
L'éducation, en premier.
Et laisser parler les autres, peut-être aussi.
Franchement, par exemple, il y a un truc très grave. Ce matin, notre attachée de presse, on arrive, elle nous dit, les filles, il m'est arrivé un truc de dingue. J'attends mon Uber, je fume ma clope. J'éteins ma clope, je monte dans le Uber, le mec m'asperge de fébraise. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'aspergez de fébraise? Et là, le mec lui répond, mais madame, une femme n'a pas le droit de fumer, elle doit s'occuper de la maison, faire la vaisselle et s'occuper de son homme.
Et elle doit sentir bon.
Elle est descendue de la voiture.
Évidemment. Non, mais c'est dingue, quoi, qu'il y ait des gens qui disent encore des trucs pareils. Il y a tellement de choses à faire pour les femmes, ça c'est sûr, mais juste déjà que les hommes changent un peu de mentalité sur la base, quoi.
Mais moi,
on peut fumer des clopes et
mais moi aussi, on lui aurait crevé ses pneus.
Lola, qu'est-ce qu'il faut faire pour les femmes?
Moi, je pense que le premier truc, c'est l'éducation. Voilà, éduquer nos petites filles et éduquer nos petits garçons. Voilà, moi j'ai un petit garçon et mon travail en tant que mère et donc en tant que femme, c'est d'essayer de l'éduquer dans le bon sens pour
qu'il respecte les femmes.
Exactement. Un truc normal. Normalement, on n'aurait pas besoin d'y faire gaffe, mais puisqu'apparemment, il faut le faire, on va le faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour les femmes, Marie Facundo?
Mais il faut déjà. Il faut nous foutre la paix. Non, mais c'est vrai que les femmes, c'est tout le temps la cible. Mais excusez-moi, il y a des choses. Je veux dire, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. D'être une femme au foyer si on a envie, d'avoir un job si on a envie, d'avoir des enfants ou pas. Enfin, je veux dire, je pense qu'il est temps un peu d'arrêter de mettre ce poids sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Je veux dire, l'homme qui doit ramener l'argent, qui doit machin.
Oui, en c'est fait, vrai, foutez-nous la paix.
On est opprimés.
Vous avez pas moins de problèmes que nous. Mais je veux dire, je pense qu'il y a un peu de ça aussi.
Voilà. Et ben moi, je propose surtout qu'on vous écoute maintenant avec Mademoiselle.
Avec plaisir. Hey Mademoiselle, stop à ces techniques de drague bidon. Hey Mademoiselle, croit-il vraiment que ce cupidon tout ça pour plaire? À ce qu'il se cache en dessous de son pantalon. Hey Mr. Zell, n'insiste pas, la réponse est non. Il serait temps que tu retiennes la leçon.
Alors, vous avez aussi une carrière solo, parce que Lola, vous avez fait beaucoup de comédies musicales.
Ouais, c'était quand même avant les coquettes. Hein. C'est-à-dire les coquettes, on n'a plus beaucoup de temps pour être dans une carrière solo. Puis, à vrai dire, on est tellement heureuse de ça que du coup, on n'est plus trop dans du solo. Mais ça n'empêche pas qu'on se fasse chacune des trucs qui nous font kiffer et qui nous remplissent à des endroits. Voilà, mais...
Racontez-nous comment vous êtes rencontrés.
Vous faites des trucs ensemble qui vous remplissent à des endroits.
Alors, on est en plein dans le sujet, les gars.
Dans les trucs qui doivent changer.
Je fais remarquer que c'est pas venu de moi.
Hein. Toi, tu l'as pensé, mais tu l'as dit. Tu l'as pas pensé.
D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous prendre Mickaël Quiroga et Ben H en stage? Quelques semaines, je pense que ça leur fera le plus grand bien.
Oui.
Alors, les coquettes, vous êtes rencontrées lors d'une audition des Soldats Roses.
Ouais.
Racontez-nous.
Bah, c'était il y a 11 ans, et ce qui est fou, c'est que toutes les trois, on ne devait pas faire ce casting, on ne devait même pas continuer, et on s'est finalement retrouvé sur cette comédie musicale. C'était à toutes les trois notre premier job dans la musique, enfin professionnelle,
payé.
Voilà, c'est ça. et voilà, on s'est rencontrés.
On s'aimait pas trop au départ.
Enfin, non, c'est vrai. Non, la vérité, c'est que Juliette et moi, on a tout de suite été potes, mais on n'aimait pas trop Marie.
Et moi, je n'aimais pas trop. Non, mais parce qu'elles étaient méchantes.
J'ai été super chiante.
J'étais pas chiante, j'étais studieuse. Non, pas du tout.
Donc, t'étais chiante, quoi.
Ah oui, chiante dans ce sens-là. Pardon d'être professionnelle.
Ah non, mais voilà, tu laisses trois gonzesses toutes seules, c'est la guerre.
Bah oui. Et alors, ça a été quoi le déclic pour que ça change?
On le dira jamais.
Pourquoi on le dira jamais, c'est-à-dire?
Non, il s'est passé un truc que j'ai fait et elles se sont dit, ah finalement, elle est marrante.
Ça fait une cochonnerie.
Oui.
Oui.
Et non, on a beaucoup ri.
On s'est dit, je me suis dénoncée tout de suite. Elles se sont dit, ah, elle est cool en fait. Ouais. Et moi, je me suis dit, elles rigolent de mes blagues, elles sont trop sympas.
C'est marrant parce que nous, chez les mecs, l'amitié, c'est plutôt basé sur l'alcool ou les bagarres. Ouais.
Et là, donc, on est rencontrés en 2007, vous faites un spectacle ensemble et vous poursuivez votre carrière tout en restant en contact.
Ouais. Bah, en fait, on reste amis, on part tous les ans en vacances ensemble.
Ah, carrément quand même.
Bah ouais, c'est vrai.
Et puis d'ailleurs, on commence à écrire. Des chansons, du spectacle, mais il y a très longtemps, au tout début de.
Comme
il y a peut-être 10 ans, mais comme ça, pour s'amuser, à se voir comme ça, un lundi, tiens, on n'a rien à faire, on va écrire une chanson. Et puis au fur et à mesure, ben, c'est devenu quelque chose de plus important pour nous. Et on s'est dit, ben, on va le mettre sur scène, on va essayer.
Ouais, et puis quand on a bien bossé pour les autres, quand t'as bien appris plein de choses aussi, voilà, ben, tu te dis, ben, j'ai envie de faire mon truc maintenant.
Et vous allez donc dans un petit bar caché de Pigalle, vous
Dans le 19e ou à Pigalle?
À Pigalle, dans le 9e, qui s'appelle l'Orphée. Et, on fait notre premier concert, on invite que nos familles et nos potes parce qu'on a trop peur et qu'on veut que tout le monde soit hyper bienveillant.
Élie Semoun, qui est notre parrain, il était là jour-là, il me dit « Ouais, je vais peut-être pas venir ». Je lui dis « T'as intérêt à venir et t'as intérêt à filmer ce qu'on fait ». Alors il était là devant avec sa caméra, on avait une banderole autour de nous, un truc lumineux qui arrêtait pas de nous tomber sur la...
Surtout sur ta tête.
C'était folklore, mais c'était magique. C'était vraiment magique.
Et tout de suite, vous avez senti que vous teniez quelque chose.
Ouais. Ça nous a rempli.
Non, mais surtout, on a vu dans les yeux des gens aussi. Ouais. Il y avait un truc où d'un coup, les gens se sont dit, mais c'est quoi ça, en fait les retours étaient unanimes. Ouais. Déjà, ça, je veux dire, c'est quand ça arrive dans notre métier, on sait, en fait. Il y a un truc où d'un coup, t'as fait plein de trucs avant, les gens. Il y en a qui disent, ouais, c'est super, d'autres, c'est moins ma cam, mais t'es génial. Ouais. Et puis, il y a un moment donné où il y a tout le monde qui te dit, en fait, là, vous êtes au bon endroit.
Il y a une évidence.
Ouais, c'est évident.
Et en plus, il y avait des producteurs dans la salle, et donc ça a été le début de quelque chose. C'est pas nos producteurs d'aujourd'hui, mais ils nous ont beaucoup aidés au début. Et voilà, après, on s'est retrouvés à l'Olympia. Notre rêve, c'était l'Olympia, et on a une Bérangère Krief qui est venue nous voir. C'était notre 4e spectacle. Ouais. Qui nous dit, les filles, ça vous dirait de faire ma première partie à l'Olympia?
On a fait.
Ça roulait par terre. On était ridicules.
Je propose maintenant, les coquettes, qu'on vous écoute.
Quand on sera vieille, un peu moins belle, qu'est-ce qu'on se dira? Comment ce sera? Est-ce que nous trois, est-ce qu'on s'aimera? Toujours pareil, quand on sera vieille.
Vous êtes comme des sœurs, les coquettes. C'est fort de dire
ça. Oui, parce qu'en fait, on a eu des très grosses disputes. Des disputes graves. Et en fait, notre force aussi, c'est déjà qu'on s'aime, sincèrement. Tu vois, quand on dit les coquettes, c'est un spectacle d'amis, mais c'est vrai, en fait. Et on a aussi quelque chose qui est précieux, qui est notre spectacle. Donc, et notre force, c'est qu'on se dit les choses. Alors, ça fait mal, parfois. On a eu des jours où on a beaucoup pleuré et tout. Oh. Et en fait...
Non, mais c'est vrai.
Mais en même temps, on arrive, je sais pas comment. Franchement, des fois, je me dis, on va jamais y arriver. Et on surmonte les épreuves.
Voilà, je vous présente quelqu'un qui surmonte aussi les épreuves.
Beaucoup d'épreuves, ouais.
C'est Ben H.
C'est Bénédicte.
Aujourd'hui, on l'appelait Bénédicte pour la journée de la femme, mais sa chronique, elle va la faire avec une voix d'homme.
Merci, j'allais vous demander l'autorisation. Je vais être honnête avec le style trivial qui me caractérise dans cette émission, être face aux coquettes, un 8 mars, sur un plateau composé de 6 femmes. J'ai pas encore commencé mon papier que j'ai déjà l'impression d'être un pauvre lapin unijambiste pris dans les phares d'un camion. Hein? Alors sachez, mesdames, que contre toute attente, cette chronique sera 100% féministe en l'honneur de ce jour important et de nos invités, et aussi par démagogie devant notre infériorité numérique. Aujourd'hui, c'est donc la journée internationale des droits des femmes, à ne surtout pas confondre avec la journée mondiale du handicap. Les deux journées peuvent se ressembler, mais ça n'a strictement rien à voir. Ouais, comment vous êtes les femmes? Laissez-moi finir.
Non, mais il peut rien dire,
et puis ça a lieu le 9 octobre en plus. Oui, ça peut se ressembler, et pour cause. En 2019, encore, dans de nombreux cas, être une femme, ça reste un lourd handicap.
Ah.
Dans nos sociétés, je crois même personnellement qu'il est préférable d'être un con plutôt que d'être une femme. C'est moins handicapant d'être con. Vous remarquerez par exemple que le con, lui, est rarement payé 20% de moins que les autres.
C'est vrai.
D'ailleurs, statistiquement, à poste égal, une femme très intelligente sera toujours moins payée qu'un homme très con. Exception faite à l'Assemblée nationale où tous les cons sont payés pareil, sans distinction de sexe. Bref, et puis à compétence égale, un con préférera toujours recruter un autre con plutôt qu'une femme. Parce que le con ne prend pas de congé maternité. Alors que rien que sur les questions de sexisme, s'il y avait un congé connerie, il y aurait du monde en vacances. Et puis surtout, Et puis partout dans le monde, hein, on peut faire ce comparatif, ça fonctionne. Hein. Personne n'a jamais cherché à exciser un con. Personne n'a jamais empêché un con d'aller à l'école. Hein, il la loupe tout seul. Personne n'a jamais voulu mettre une burqa sur un con, alors que par définition, le con a une tête de con. À l'inverse, toutes les femmes ont des têtes de femmes. Et ça, bah, ça n'a jamais posé de problème. Du coup, en cette journée un peu particulière, pour celles sans qui j'aurais un bras plus musclé que l'autre, nous recevons...
Je
savais qu'elle allait mettre une petite seconde à monter. Hein. Ah, elle est bien. Elle est bien, elle est bien.
Tant que ça met qu'une seconde.
Il a parlé de bras, il n'y a rien.
Nous recevons non pas une, non pas deux, mais bien trois femmes avec les coquettes. Trois femmes à l'occasion de la journée des droits des femmes. J'ai envie de dire vivement le 26 août et la journée mondiale du topless. Qu'on célébrera aussi, je l'espère, avec les coquettes. Hein, le rendez-vous est pris comme ça. Parce qu'avec Mickaël Quiroga, nous, on sera là aussi ce jour-là. Ouais. Mais quelle riche idée de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'à travers votre spectacle, vos nombreuses chansons, aussi légères qu'engagées, et ben, les coquettes, vous n'êtes pas que trois femmes, hein, mais un peu toutes les femmes. Les coquettes, oui, mais aussi les élégantes, les sexy, les brillantes, les belles, naturelles, timides, folles, sages, franches, mutines, coquines, vulgaires, dragueuses, charmeuses, mystérieuses, négligées, raffinées, assumées, dévergondées, voire même un peu salopes. Pardon, mais ça arrive aussi, il faut bien le reconnaître. Et,
oui,
puis, et puis, c'est mon petit côté poète, hein, et on ne le dira jamais assez, le poète a toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon.
La femme est l'avenir de l'homme.
Ça grave cette joie de vivre que vous dégagez, parce ouais. que il y a beaucoup d'artistes qui font la gueule en fait.
Je sais pas comment ils font.
Franchement, nous on est tout le temps contentes de tout. Et souvent on nous dit non mais attendez, faites genre, vous êtes blasées quoi. Genre, non, par exemple pour l'Olympia, on nous a dit les filles, vous avez votre place, vous êtes là.
Vous remerciez
personne. Nous on a dit alors là franchement on s'en fout. On a pris un quart d'heure à la fin de l'Olympia, on pleurait et on disait alors merci.
Tu sais qu'on nous dit toujours. Vous n'êtes pas assez chiante. Mais moi, ça m'agace parce que... Non, mais c'est vrai, ça c'est mon coup de gueule du jour. Parce que c'est vrai qu'on nous dit pour les artistes, pour vous faire respecter, tout ça, il faut être un peu chiant.
Ah bon ?
Mais ouais, on nous l'a dit plein de fois.
Mais
vous
qui
êtes, des gens de production.
Mais voilà. Des gens dans le métier, ouais.
Et en fait, nous, on n'a pas envie. Enfin, je veux dire, c'est profondément pas nous. Et on se dit, du coup, pour être respecté...
Mais je pense que c'est ça que le public aime aussi chez vous. C'est cette espèce de... En dehors de votre talent vocal incroyable, de la drôlerie des textes, c'est aussi... Et puis, le côté très léché du spectacle. C'est un spectacle aussi très esthétique. Mais les gens aiment aussi, certainement, l'amour qu'on sent entre vous, la joie de vivre.
Nous, on est des ravis de la crèche, hein. Franchement, ouais, franchement. Pas se mentir. C'est vrai, on est tout le temps contentes.
On est contentes.
Non, on vient chez repas, on se dit... moi, dans le taxi, je me disais, non, quand même, Anne, c'est vrai, depuis le début, elle nous a invités.
Mais c'est
dès
vrai,
le début,
j'étais en train d'y penser.
Trop sympa. Je faudrait vraiment que je pense à lui dire, vraiment. Au tout début, elle était là. Bientôt, ça fait la quatrième saison et on revient, franchement. Nous, on est contentes, en fait. Nous, on est reconnaissantes.
En fait, elle était en train de vous dire merci.
Non, mais c'est vrai. On trouve qu'on a de la chance.
Ouais,
ok, on a bossé. Ok, on a fait un truc et tout. C'est pas pour nous dévaloriser que je dis ça, mais en plus de tout ça, on a de la chance.
Et on est contente d'avoir de la chance.
Ouais.
Les coquettes, Léa Londo vous a préparé un interview coquinette.
Oh oui, les coquettes.
Coquinette.
Ouais, parce que alors bon, moi je vous ai déjà vu plein de fois en spectacle et d'ailleurs vous devriez faire payer double, hein, parce qu'on est à la fois à un concert et un spectacle d'humour et en plus on parle de sexe, je veux dire c'est la soirée complète. On en prend plein les oreilles et les zygomatiques, on kiffe, on rit, on dirait moi au lit, d'abord l'autre kiffe puis après il rit. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Mais les coquettes, pas de raison que vous nous balanciez des petites fessées du dimanche soir et des missionnaires sans qu'on en sache plus. Donc voici l'interview coquinette des coquettes.
Ah, je vais adorer.
Bon, si on ignore complètement que 2 sur 3 sont casés et bien casés, laquelle des trois est la plus séductrice en vrai ?
Attends, je note.
Ça dépend des types de séduction, en fait. Ce qui est drôle, c'est que... c'est le principe d'une interview, Marie.
Écoutez, oui.
Il y en a une des trois qui a eu un sourire de « c'est moi, mais je vais pas le dire ».
Non, on a toutes les trois des manières de draguer très différentes.
Très différentes.
Ah ouais. Déjà, moi... Je sais jamais qu'on me drague. Franchement, elles me disent mais lui, mais il te kiffe trop.
Non mais Marie, c'est incroyable.
Moi, je suis naïve,
elle ne voit rien.
Ah bon ?
Elle ne voit rien. On lui dit mais Marie, mais c'est un truc de fou. Le gars, il a les yeux par terre de toi.
Ah bon, j'ai trouvé ça.
Comme moi, j'ai de plus en plus de cheveux blancs, les coquettes, qu'il va falloir que je recouvre. Question, qu'est-ce qui excite le plus ? Le brun, le roux ou le blond ?
Le naturel, peu importe la couleur.
Ah ouais ?
Même le blanc.
Même le blanc ? Oh non, arrête.
Ah si, le blanc, c'est magnifique.
Ouais, le chauve, quand même.
Mais si, parce que c'est assumé, parce que ça veut dire que t'as confiance en toi. Garde tes cheveux blancs, c'est beau les cheveux blancs.
Il n'y a pas de règle dans le sexe et dans l'amour. Moi, je pense que ça se joue à la personne.
Et sinon,
en fait.
Pour un petit peu d'honnêteté, le blanc et noir mélangé, c'est dégueulasse.
Ouais, on est d'accord.
Bon, comme vous n'avez aucun sujet tabou, les coquettes, c'est quoi le fantasme d'une coquette ? Ah, être le temps d'un soir une coquette pour chien.
Et donc sentir le poulet.
Non.
Est-ce qu'il y a un truc que vous exigez en particulier le 8 mars aujourd'hui? Un truc qui vous ferait plaisir, les coquettes?
Qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans notre salle.
Ah voilà. Ça, c'est une bonne importe. Et sans mentir, laquelle est la plus coquette des trois en loge?
Ouf, alors là, les trois.
Franchement, ouais. On est très
coquettes. La première chose qu'on fait quand on arrive, c'est qu'on demande le miroir, la glace.
Je veux dire, les prises.
Les prises.
Pour les cheveux.
Et les lumières. Voilà, pour bien se voir. Non, mais en fait, nous, ça fait partie de ça
c'est,
fait partie
c'est un rituel de préparation. Le make-up, la coiffure. Ouais.
Non, mais c'est pour se concentrer.
Se sentir
aussi.
Bien.
Comme on a besoin beaucoup de concentration.
Alors que les mecs, nous, on ouvre plutôt le frigo pour voir s'il reste des bières.
Oui, c'est ça. Comme quoi, on est vraiment différents.
Bon, on connaît ce que font la majorité des filles, les coquettes, surtout les copines entre elles, elles bitchent les unes sur les autres.
Oui.
Donc, on ne déroge pas à la règle. Voilà, c'est la question.
Donc, je vous laisse la possibilité pour ce jour de la femme de bitcher les unes sur les autres.
Oh là là.
Apparemment, j'aurais acheté les mêmes boucles d'oreilles que Marie.
Et effectivement, elles lui vont moins bien qu'à moi.
Bon, comme dans Coquette, il y a cocu. Vous pensez que vous pourrez vous faire des infidélités un jour ou ça restera toutes pour une et une pour toutes, les coquettes?
En fait, ce sera toujours toutes pour une et une pour toutes. Mais par contre, on se fera des...
On est un couple libre.
Voilà, exactement. On est un couple libre. La règle, c'est priorité, les coquettes.
Ouais.
On ne déshabille pas les coquettes pour s'habiller personnellement. Mais par contre, si on peut se faire kiffer et aller ailleurs... sans que ça handicape les coquettes. Au contraire, les deux autres seront supporters.
Et alors, il faut avoir quoi comme atout pour aller à la conquête d'une coquette?
C'est une question importante. Hein. Ouais. Soyez précise.
Nous, je crois qu'on aime profondément les gens gentils.
Ouais.
Non, mais ça peut être mieux de dire ça.
Ouais,
non,
les gens drôles aussi.
Moi, j'avoue, je craque pour des hommes que je trouve intelligents.
Ah oui, bah.
C'est-à-dire que
moi,
ça.
Les teubés, j'adore.
Vous venez donc de parler du spectacle musical Les Copains d'abord, Music Tour 2020 Guest.
Non, c'est un spectacle d'amour, déjà, pour commencer. Parce que bon, c'était pas n'importe quel artiste. Un spectacle que j'ai donc co-écrit avec le saxophoniste Fred Carato, qui est un saxophoniste d'immense talent, avec le groupe Les Angeliveurs, qui viennent de Lunel, à côté de Montpellier. Et c'est vrai que nous parcourons la France
dans vous des chantez, salles. Vous parlez
les deux. Les deux.
Je
suis conteur, chanteur et vous allez me demander de chanter naturellement.
Oui, Nelson, chantez s'il vous plaît.
Est-ce que c'était une carrière envisagée quand vous étiez jeune chanteur, Nelson Montfort?
Pour ne rien vous cacher, oui.
Ah ouais. Alors un petit truc a cappella ce matin au Débeauté.
Ah, vous avez une chanson magnifique de Georges qui s'appelle L'Orage que vous connaissez. Bon, comme elle dure 4 minutes, je vais vous la faire très très courte. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand bonheur qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage.
Ah ouais, oh, bravo. Jolie voix.
Il y a The Voice qui sont... Apparemment, ils veulent vous prendre. Hein.
Jolie voix.
C'est quoi votre chanson préférée de Brassens, Nelson Montfort?
Celle que je viens de vous interpréter fait certainement partie des 3 ou 4 chansons que je préfère. Maintenant, vous savez, le répertoire de Georges, comme vous le savez, est tellement vaste. Je pense qu'une chanson comme La Prière, là, le Je vous salue Marie, c'est une chanson absolument merveilleuse. D'ailleurs, elle vient de quelqu'un qui, soi-disant, était un peu iconoclaste et anticlérical, etc. Mais si vous écoutez les paroles de Je vous salue Marie, vous avez exactement l'exemple inverse. C'était un à la fois.
On va l'écouter.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus.
Oui, parce qu'on retient de Brassens l'humour et la poésie, mais il y a des chansons qui sont poignantes.
Ben celle-là, c'est le mot. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et d'ailleurs, nous avons, les chansons incontournables de Georges. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de le faire dans des rythmes un petit peu jazzy, un petit peu sud-américain parfois. Par exemple, Les Copains d'abord, que tout le monde connaît, va très très bien, par exemple, à la trompette ou au saxo. Et parce que si c'est pour faire exactement le même spectacle oui. que faisait Georges, ça aurait été de toute manière beaucoup moins bien. Et surtout, ce qui me fait plaisir, vous allez peut-être pouvoir me répondre à cette question. À la fin du spectacle, on vient nous voir et dit pourquoi n'entend-on plus jamais des artistes comme Georges Brassens, comme Jean Ferrat, comme Charles Trenet. Et moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Peut-être l'avez-vous. Moi, je n'ai pas la réponse. Quand on vient d'écouter la 30 secondes, je vous ai vu assez ému. Je pense que ces chansons-là sont immortelles. Je le pense. Enfin, vous voyez la conviction avec laquelle je vous parle. Moi, ce sont des chansons qui accompagnent ma vie et j'aimerais, à travers ce spectacle, c'est ce que nous essayons de faire, de qu'elle accompagne la vie, y compris des plus jeunes.
On va écouter Les Copains d'abord, avant la pause.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait Les Copains d'abord, Les Copains d'abord.
Alors Nelson Montfort, on va parler un peu de vous quand même. Votre père est américain, d'où cet accent formidable.
Ben je ne me force pas. Je sais pas, vous trouvez que j'ai un accent américain quand je vous parle. Je ne sais pas. Je ne me force pas.
Vos parents, vous êtes issus d'un remariage et vous étiez fils unique.
Oui, c'est exact.
Et vos pères partaient tout le temps en voyage avec votre mère et vous avez grandi dans des pensions.
Oui, c'est à peu près bien résumé. Mes parents étaient déjà peut-être un petit peu en âge d'être mes grands-parents. Donc à partir
vous
de là,
quel âge quand vous êtes né?
J'avais quel âge quand je suis né? J'avais
non.
C'est original.
C'est vrai que c'est une drôle de question.
J'ai dit
ça, c'est une bonne question.
J'ai né à 14 ans.
Tu voulais dire quoi?
Vos parents avaient quel âge quand vous êtes né? C'est quand même très clair.
C'est pas ce que vous avez dit.
C'est ce qu'elle a dit.
J'ai des témoins.
Quel âge avaient vos parents à votre naissance?
Disons que ma mère c'était peut-être l'une des dernières chances et mon père
aussi.
Elle
avait quel âge?
42 peut-être comme
ouais,
ça.
Et votre père?
Presque 60 peut-être.
Donc, ils avaient 18 ans d'écart.
Oui, bon, aujourd'hui.
Petit polisson.
Et donc voilà, ça s'en est suivi vraiment.
Donc éducation dans des pensionnats, beaucoup de sport aussi.
Beaucoup de sport qui continue à accompagner ma vie. J'espère. Et puis la musique, la passion de la passion de la musique, de la chanson et la passion du sport aussi. Donc ça m'a aidé effectivement par la suite à devenir commentateur de sport à la télévision.
Vous avez même été diplômé de Sciences Po comme beaucoup de gens de qualité.
Comme vous, ma chère Anne, votre modestie dut-elle en souffrir.
Et après, vous avez été faire de la finance à San Francisco. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une maison bleue accrochée à la colline.
Bravo. Bah, disons que ce n'était pas ma vocation. Et là, franchement, ça c'est quelque chose que je tiens à dire. Lorsque je suis revenu, je ne connaissais absolument personne dans
vous
ce métier.
Vous avez découvert la drogue à San Francisco?
Le flower power, mais pas
bah
la
oui,
drogue.
Parce que c'était l'époque, non?
Non, c'était un petit peu après. Je sais que j'ai déjà un grand
toujours,
âge,
hein.
Mais... voilà, et donc après, je ne savais pas encore exactement ce que je souhaitais faire, mais je savais très bien ce que je ne souhaitais
pas faire.
Vous
vouliez
pas faire
de la
finance.
Surtout,
oui, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, mais ce n'était pas pour moi. Et aujourd'hui, quand on me dit, oui, il faut être pistonné, il faut connaître Pierre, Paul ou Jacques pour réussir, etc. En tout cas, je sais que ce n'est
vous
pas vrai.
Vous n'étiez pas pistonné,
je
vous avez juste couché.
Personne.
C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit Nelson Montfort a couché pour réussir.
Avec Philippe Candelereau, c'était
voilà,
vraiment...
Voilà, je l'attendais, celle-là.
C'était pas dingue.
Bonjour Mazarine Pinzo. Ouais,
bonjour.
Vous êtes bronzée, vous revenez de vacances?
Bah oui. Je garde encore un tout petit peu de
vous
bronzage.
Vous avez l'air très détendue, heureuse, bien dans votre peau, contrairement à moi.
Ça change dans ce studio.
Anne a passé un bel été, visiblement.
Il faut que je m'excuse.
Non, mais expliquez-nous. Non, mais ça fait plaisir de voir quelqu'un d'heureux, mais ça vous rayonnez de bonheur.
Donnez-lui la recette, en fait.
C'est presque angoissant. Non, mais ça va
c'est
plutôt.
Vrai
en effet. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une période plutôt cool.
Tant mieux pour vous. Alors.
Bah, voilà. Alors oui, on ne vous a pas prévenu, mais Anne est la seule personne dont le statut Facebook peut passer de « c'est compliqué » à « c'est foutu ». Ça joue sur le mental. Un peu.
Alors, Mazarine Pinjot, vous venez de parler de votre tout dernier roman qui s'appelle « Se taire ». Dans ce livre, en fait, vous racontez l'histoire de Mathilde, une jeune photographe qui se fait agresser sexuellement par un homme politique de renom. Alors évidemment, on a envie de vous demander si c'est inspiré de faits réels. Évidemment, vous allez répondre non.
Bah, évidemment.
Mais en vrai
On est toujours plus ou moins influencé par l'actualité. Ce livre, clairement, s'inscrit dans toute l'époque et ambiance MeToo, Balance ton porc. Ça s'inscrit très clairement dans cette optique et dans cette thématique. Mais encore une fois, pour interroger la question du silence, comment ça s'est organisé, quoi, cette question du silence, ces femmes qui ont mis beaucoup de temps avant
mais
d'arriver à parler.
Mais toujours maintenant,
ça.
Les femmes victimes d'agressions de tous les milieux sociaux, souvent.
Mais c'est complètement, ça continue d'être complètement actuel, bien sûr.
Ça vous met en colère, Mazarine Pinjot, qu'on dise aux femmes agressées de se taire?
Oui, ça me met en colère. Ce qui me met d'autant plus en colère, c'est la façon dont c'est dit, c'est-à-dire la façon insidieuse dont on continue finalement d'enjoindre les femmes au silence. C'est ça que je trouve violent.
Qu'est-ce qu'il y a d'insidieux, par exemple? C'est-à-dire de dire ne fais pas d'histoire, ne fais pas de vagues.
Oui, c'est-à-dire que, par exemple, le livre explique bien, enfin, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu essayer de travailler, comment ça s'organise, y compris dans une famille. Souvent sous couvert de protéger l'autre, c'est-à-dire tu vas t'en prendre plein la gueule si tu le racontes, il n'est pas sûr que tu seras entendu chez les flics, ce qui est pas faux, hein. Porter plainte c'est hyper difficile.
Vous avez enquêté pour ce livre, vous avez...
Non, j'ai pas enquêté au sens d'une enquête journalistique, mais en revanche j'ai beaucoup discuté avec des amis, avec des gens, puisque ça touche à peu près tout le monde quand même, ce genre d'histoire, peut-être pas dans la violence qui est celle du roman, mais à des degrés, des niveaux différents. Mais
là le fait que dans votre roman, l'agresseur soit un homme politique, est-ce que ça fait de lui un intouchable ou
Ouais, ce qui m'importait, c'était, bon, c'est pas vraiment un homme politique, c'est un prix Nobel, c'est quelqu'un, oui, qui a travaillé...
Qui a du prestige, du charisme... Exactement.
Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il soit non seulement intouchable parce qu'il est puissant...
Mis sur un piédestal.
Mais en plus, effectivement, incontestable moralement, puisque c'est quelqu'un qui est porteur d'un statut d'une haute éthique et que personne n'imaginerait pouvoir critiquer. Et donc, d'une certaine manière, c'est comment... comment la rumeur, comment la réputation protège un homme et font que d'une certaine manière c'est plus un combat d'opinion finalement qu'un combat de vérité. Et on sait bien aujourd'hui aussi qu'en plus d'être dans cette atmosphère comme ça de MeToo, on est aussi dans une atmosphère des fake news où finalement la rumeur est parfois plus importante que la véracité.
Mais parfois des hommes puissants peuvent être aussi accusés à tort.
Bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est pas le cas dans ce livre où c'est plutôt la parole de la victime qui n'est pas entendue.
Vous n'avez jamais eu ce genre de problème, Mazarine?
Vous voulez dire si j'étais violée ou pas?
Non. Non, j'ai pas...
Normalement, elle vous demande comment se passe votre journée d'abord, alors, et ensuite elle vous demande
non,
ça.
Non, voilà. C'est pas ma question, c'est ce
Laurent,
que vous...
une vanne par-dessus, là, tout de suite, à chaud, là.
Un petit jour la salle.
Non, Mazarine, c'était pas du tout ça, ma question. Ma question, c'était est-ce qu'à un moment, vous, dans votre vie...
Vous auriez aimé... Non, pas du tout. Mais ça dérape complètement, là. On est
dans
vraiment...
votre vie de jeune écrivain, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes trouvé dans une situation un peu gênante ou délicate? J'ai pas du tout parlé de viol ou quoi que ce soit, mais vous avez été parfois senti sous la menace.
Une fois, on lui a payé un café, c'était un peu limite.
Et je lui ai connu une baigne. je pense qu'on se retrouve toujours plus ou moins dans une situation compliquée où on ne sait pas ce que l'autre demande, si on doit dire non, et dans ce cas-là on a l'air d'être une grosse nympho parce qu'en fait il n'avait pas aucune intention de nuire, ou si on se laisse plus ou moins aller, mais dans ce cas-là ça peut aller trop loin. Enfin, vous savez, ces zones un peu difficiles, ouais, hyper, complètement floues et difficiles à définir, où soi-même on ne sait plus du tout sur quel pied danser, et on ne sait pas non plus si on ne va pas faire une énorme gaffe en disant écoute, arrête de m'emmerder, alors qu'il n'était pas du tout en train de faire. Vous savez,
Si c'est flou, c'est que le mec est maladroit, parce qu'en général, nous les garçons, on sait très bien quand on est un peu limite ou pas.
C'est vrai ?
Ah bah oui, oui.
Tu t'en serais rendu compte il y a 5 minutes.
Hein, lui, il le sait quand le juge appelle. Moi, c'est quand le juge m'a dit ça vaut 10 ans, je me suis dit, ah effectivement, j'ai été un peu trop direct.
Alors, ça parle du secret, ce livre. Et justement, j'ai envie de demander à mes chroniqueurs, est-ce que vous savez garder un secret, Jean-Philippe?
Bien sûr que je sais garder un secret. Franchement, Anne, hein, quand vous m'aviez dit qui était votre amant, eh ben, je ne l'ai dit à personne. Ah, j'ai rien dit. J'ai pas dit que c'était le mec qui faisait la pub pour Nespresso. Je n'ai rien dit. Grâce à moi, personne n'est au courant. D'ailleurs, je l'ai rencontré à Cannes pour de vrai. Ben, lui non plus, il n'est pas au courant. Hein.
Laurent, les secrets ?
Moi, je ne sais absolument pas garder un secret. Alors, il faut dire que je suis à bonne école avec Anne Roumanoff, qui est une vraie porte ouverte en matière de secrets.
Hein, oh là, oui.
C'est vrai que grâce à elle, seulement des milliers d'auditeurs savent que je fréquente une femme mariée, qu'elle s'appelle Sandra, et qu'elle bosse dans un cabinet d'assurance. À l'émission Secret Story, Anne, elle aurait tenu 3 quarts d'heure.
Ça en est où, justement, avec cette Sandra ?
Eh bien, maintenant, son mari est au courant, je crois.
Mais non, mais elle est en train de se séparer.
Elle est en train de se séparer, mais ce n'est pas si facile que ça.
Ça prend du temps, quand même.
Encore une petite relation.
En tout cas, grâce à Laurent, le juge est un peu plus indécis. Là,
au final, c'est Laurent qui va payer la pension.
Non, mais pourquoi elle met tellement de temps à se séparer ?
Parce que lui, il n'a pas envie de se séparer. Ah. Elle a envie de se séparer. Et
pourquoi lui... c'est elle qui a les sous, quoi ?
Arrêtez de ramener toujours ça. Arrêtez de ramener toujours ça aux bourses, Michael qui regarde. Il y a un peu de sentiments. Je sais que pour vous, il n'y a plus de sentiments avec des centimètres, mais pour moi, il y a quand même des sentiments.
L'autre.
Pardon.
À chaque fois qu'il ramène une femme, elle est soit médecin, avocate, dentiste. Alors on s'est dit
c'est mon amour d'enfance que j'ai croisé et que j'ai recroisé. Et on est très amoureux l'un de l'autre. Le problème, c'est qu'elle est mariée.
Mais c'est rien passé quand même là.
Non, c'est
même pas un petit bisou.
Et voilà, c'est justement.
Et ben,
ça que
moi, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir.
Même pas un petit bisou.
Non, pas petit bisou.
Je vais te dire un truc qui va te faire plaisir.
Commissure des lèvres. Un petit truc un peu.
Commissure des lèvres.
Un petit truc un peu excitant.
Je vais te dire un truc.
Il a juste
foiré. Je vous entends plus, il n'y a plus de micro. Houston, je vous reçois plus.
J'ai dit, il y a 40 ans, commissure des lèvres,
À 40 ans, on a toujours la commissure des lèvres. C'est quelque chose qu'on peut avoir même à 20 ans. Je lui ai dit au revoir, elle est mariée. Je suis assez religieux, je suis assez respectueux du truc de mariage. Et c'est vrai qu'en se disant au revoir, Mazarine, vous êtes déjà arrivé.
C'est justement le moment où on se demande justement est-ce qu'il l'a fait exprès, est-ce qu'il n'a pas fait exprès.
Non, mais
est-ce que je suis consentante,
c'est ça le côté excitant. Après, elle est encore mariée. Tous les soirs, ils vivent encore ensemble. J'imagine qu'il va avoir des petites tensions sexuelles, voilà.
Vous n'avez pas demandé quand même.
Non, je ne demande pas, je souffre en silence, moi.
Laurent, c'est
oui,
juste.
Michael,
c'est juste
à vous, allez-y, c'est mon dossier.
C'est juste le temps qu'elle réalise que dans leur embarras, il y a leur embarras.
Je suis un peu la tête de turc.
Dans leur embarras, il y a surtout
embarras.
Ben H.
Oui, en parlant d'embarras, Ben H.
Oui, c'est vrai, les secrets. Moi, quand j'ai un secret, je suis une tombe. Vous pouvez me faire confiance. Motus et Bouche Cousue, par exemple, j'ai un énorme secret. C'est un scoop. J'ai un énorme secret sur un chroniqueur ici présent, mais je ne dirai rien du tout.
Alors dites-nous, c'est quoi ?
Bon, ok. Il y a encore 5 ans, Michael Quiroga était une blonde qui s'appelait Véronique. Voilà.
J'en étais sûr.
Ouais, bon, on va peut-être revenir à Mazarine Pinjot.
Ouais. Et le chirurgien, il est en cavale ou quoi là, parce que c'est quoi ce boulot là ?
Le premier qui me parle mal, je l'attaque pour agression, faites gaffe.
C'est votre 14e livre. Et ça y est, maintenant vous êtes reconnu comme écrivain, vous avez écrit un film. Vous avez une satisfaction de ça, j'imagine.
Oui, en tout cas, il n'y a pas de...
Vous avez 3 enfants, vous avez plusieurs hommes, là vous êtes mariée.
Voilà.
Quand on vous dit qu'elle ne sait pas garder un secret, dans 2 secondes, elle va donner votre adresse et votre 06.
C'est fou ça. C'est fou.
Balancez le nom des amants, allez-y, on y va, balancez.
Mais non, elle est mariée et heureuse.
C'est le ton du reproche, elle est mariée heureuse.
Ouais. Encore une fois, je m'excuse.
Vous faites bien.
Oui, mais comme elle a eu une enfance difficile, ça va.
Ça va, c'est bon, j'ai payé ma dette.
Comment vous faites pour paraître toujours 10 ans de moins ? C'est le poker qui vous entretient ?
Non, je joue très peu là, hein, vraiment, depuis ça fait longtemps que je joue presque plus. L'enthousiasme.
Parce que moi.
Et la capacité d'émerveillement intacte.
Parce que moi, à part la bataille, je connais rien aux cartes. Par contre, comme toutes les femmes, j'arrive à bluffer, ça s'appelle le maquillage.
Ouais.
Et là, vous me dites.
Je suis sans voix.
Et là, vous me dites, mais vous n'êtes pas maquillée
mais vous n'êtes
ce
pas,
matin.
Moi, pas, franchement, vous n'avez pas besoin de ça.
Nous avons le plaisir de vous recevoir ce midi, Patrick Bruel, à l'occasion de la sortie de votre nouvel album intitulé. Comment il s'appelle votre album, Patrick Bruel ?
Ce soir, on sort.
Voilà, ce soir, je ne sais pas si je suis libre. Non, je ne suis pas une fille facile. Vous savez, j'ai besoin d'être courtisée. Puis en plus, il faut que je regarde parce que je suis très sollicitée.
Ce soir, on sort, peut-être.
Peut-être, ouais, je suis très sollicitée. Toutes les femmes de France rêveraient que vous leur proposiez de sortir un soir en votre compagnie.
Toutes, peut-être pas. Hein.
Parce que sortir sans votre compagnie, on y arrive facilement. D'ailleurs, je suis sûre qu'autour de cette table, certains chroniqueurs accepteraient de sortir avec vous, Patrick Bruel.
Bien sûr. Vous attirez les nanas, je les récupère.
Voilà, ça s'appelle un appât.
Alors, déjà, vous me dites comment ça s'écrit Bruel, parce que je ne connais pas monsieur, moi.
Alors, ça arrive
que,
pas de H.
Ça arrive que des copains veuillent sortir avec vous, justement, parce que vous attirez...
Écoutez, je m'en suis pas forcément rendu compte, mais ça a pu arriver, je crois. Oui.
Ça doit marcher mieux qu'un caniche, quand même.
Où il y a les enfants dans les squares, ça marche bien aussi.
Oui, mais là, on n'est jamais sûr.
Je faisais ça quand j'étais petit, moi. Parce que j'ai eu mes deux petits frères, enfin, mon premier petit frère est né quand j'avais 12 ans. Et c'est vrai que j'allais le chercher tous les jours à la crèche, que je le baladais dans le square en bas de chez moi et que c'était fou. Il y avait le lycée Claude Monet qui était juste à côté. Et le nombre de jeunes filles qui sont venues pour caresser mon petit frère. Oh, qu'il est mignon, mignon. Et je disais dans mon livre, David, mon frère, ah si, tu savais ce que je te dois.
C'est quoi pour vous la soirée idéale, Patrick Bruel? C'est une soirée romantique aux chandelles, enfin avec des bougies, pas dans la boîte échangiste, soit une soirée pizza foot avec des potes, ou alors le top, c'est une soirée pizza foot avec votre amoureuse et un pote qui tient la chandelle? C'est quoi le...
Ma soirée idéale, c'est d'être en bonne compagnie. Ouais. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, la bonne compagnie va créer l'environnement, va créer l'atmosphère. Donc avec des potes, pourquoi pas? Avec une amoureuse, pourquoi pas? Avec des potes et une amoureuse, pourquoi pas. Si en plus il y a la famille avec, voilà, ça s'appelle une bar mitzvah.
J'ai eu peur. Ouais.
J'ai voulu la dire, elle est restée là. Voilà. Elle est pas sortie, hein, grande sécurité. Ouais.
Dans votre nouvel album, Patrick Bruel, ce soir on sort, vous êtes entouré de Vianney. Il a le droit de sortir, Vianney, je veux dire, après 18h, il a pas caté.
Détrompez-vous. Il est présent sur cet album sur deux chansons, essentiellement. Enfin, deux chansons, et puis une production d'une autre. Il est sur la production de Tout Recommencer, sur l'écriture de Rue Mouffetard et sur la coécriture d'une chanson qui s'appelle On Partira, qui est la chanson qui a commencé notre collaboration. J'avais cette chanson qui était plutôt un up-tempo, qui s'appelait On Partira, qui était peut-être parti pour faire une chanson ambiance de deux potes sur la route 66. Et finalement, il a pris la chanson et il en a fait une chanson plus lente. Il a modifié un peu la mélodie du couplet. Il a gardé le On Partira, mais il a fait une chanson sur un jeune migrant de 17 ans qui parle à sa mère. Et c'est absolument somptueux.
On écoute.
Moi, l'enfant défendant maman, la serre en séchant ses cils et l'enchante. Lui chante. On partira loin. Les océans, les mers et les vents, je les boufferai, maman. On partira vers le bien. On partira bien loin. Il y a des guerres qu'on ne guérit, maman. On partira vers le blanc. Promesses du matin sont victimes de la vie. Elles nous glissent des mains quand arrive la nuit. Mais les cœurs se souviennent une fois unifiés, même si usés par le poids des mois séparés. Si l'erreur est humaine, peux-tu me pardonner d'être parti au loin chercher ma vérité? Maintenant je le sais, oui je le sens en moi. C'est l'amour qui me dicte de mourir dans tes bras. Si tu ne m'as pas vu.
On sent que cet album est plus sombre quand même.
Non, c'est parce que j'ai été en train d'y penser. On est sur une discussion et sur un choix qui nous amène sur les chansons plus sombres, mais à côté de ça, des chansons beaucoup plus festives. Il y en a une qui s'appelle par exemple « On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait ?» qui est une bonne question à se poser quand on rencontre quelqu'un un soir dans une boîte. Ou
là, vous racontez ma vie. Moi,
j'en compte.
Chacun son destin, mon pote.
Il est très possible qu'il y ait identification sur celle-là.
C'est ça.
Mais celle-là était très sympa et ça marque.
Là aussi, on se plaît pas, qu'est-ce qu'on fait?
Bah là, c'est serré, moi.
Il y a pas de chanson.
Et là, ça marque la collaboration avec quelqu'un qui est très très important sur cet album, qui est Scalp. Scalpovic, ouais. Et lui, il vient d'un monde plus urbain.
Le hip-hop.
Avec un son, avec quelque chose. Et c'est l'alliance entre des chansons que je compose, que j'écris, et le son qu'il y amène et la résonance. Et cette chanson, On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait, qui est sur une sorte de reggaeton, où c'est un type qui, voilà, dans une soirée, qui rencontre une apparition incroyable et qui se demande quoi faire. Voilà, mais c'est une bonne question.
On écoute.
Un verre cogne dans le mien, je me tourne à sourire, m'éclabousse. Les yeux aussi brûlants que cette nuit, la lune est rousse. On se cherche, on se regarde, on rit, on joue un peu. On va pas se mentir, il y a quelque chose dans nos yeux. Mais dans quoi je suis en train de m'embarquer? Même s'il est déjà trop tard pour y penser. On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait? On se plaît, mais on se tait.
Ça,
je sentais Ben H captivé. Ouais, ben,
comment ça se finit?
Eh bien, ça se finit par une très bonne question, de se dire est-ce
on
que
a je... couché ensemble. Qu'est-ce non, que je fais maintenant?
Non, justement, j'ai résisté. En tout cas, j'y suis pas allé. Et puis ouais. quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard. Il peut y avoir peut-être un regret, est-ce que j'ai laissé passer une histoire? Je suis revenu souvent.
Vous n'avez pas tellement laissé passer d'histoire, Patrick Bruel, quand même. Vous êtes plutôt du genre à y aller, vous.
Détrompez-vous.
Oui, bon, dis donc, déjà, il y a une quantité, quand même.
Mais vous avez... excusez-moi, vous avez des chiffres? Vous étiez là?
Non,
je
n'ai pas des chiffres. Non,
mais ah, les rumeurs.
Non, ce n'est pas des rumeurs, parce que c'est des gens qui m'ont dit que...
Ah, bah,
non,
c'est pas des rumeurs.
Non, ce n'est pas des rumeurs, ouais, c'est de l'info.
C'est vraiment des faits.
Non, c'est de sources sûres, parce que j'ai une amie d'une amie qui a été c'est... avec vous et
savez,
une autre.
Vous savez que j'ai une chanson dans mon album qui s'appelle 3, Paul Bruel, qui est mon troisième album, qui s'appelle Quoique, et qui emploie exactement les mêmes mots que ce que vous venez d'employer. On m'a dit que, il paraît que, c'est une chanson sur la rumeur.
On m'a dit
écoutez, elle s'appelle ouais. Quoique. Elle est très très marrante.
On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que...
c'est exactement ça.
Non, non, mais moi, j'ai été témoin. Des fois,
elle a même participé, mais ça...
Vous allez voir que dans deux secondes, c'est elle qui a pris les photos.
Alors je dirais bien moins que ce qu'on prétend et un peu plus que ce que j'avoue.
C'est élégant.
Vous êtes né de l'autre côté de la Méditerranée, à Tlemcen, pendant la guerre d'Algérie.
Vous l'avez bien prononcé.
Et alors, votre papa part quand vous avez un an et vous habitez seul avec votre maman, non pas rue Sarrazade, mais dans le 13e.
J'habite seul.
Dans le 13e arrondissement.
Argenteuil d'abord.
Argenteuil, et après dans le 13e. Et alors, vous dites qu'au début, ça a été un peu compliqué avec votre beau-père, mais lui-même, c'était pas facile, parce qu'il s'est retrouvé avec une femme vous avez vécu seul avec votre mère jusqu'à l'âge de 7 ans, et lui, il a dû s'imposer. Vous deviez déjà avoir un sacré caractère à 7 ans.
Bon, comme beaucoup d'enfants qui ont été habitués à une certaine zone de confort et qui voient ce confort un peu bousculé et quelque part... c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a élevé, qui a été extraordinaire. Et parfois, j'ai un peu fait comme ça m'arrangeait, ce qui n'était pas toujours facile à gérer pour lui, mais...
Par contre, quand vos petits frères sont nés, ça a été beaucoup mieux. Là, vous étiez une famille et puis vous en êtes servi donc pour draguer, comme vous racontez.
Je vois que ça vous intéresse beaucoup, cet aspect de ma personnalité.
Ouais, un peu, hein. Ah, la chaud en ce moment. Hein.
Disons que j'ai grandi très vite. Quand on a la chance d'avoir un petit être qui arrive comme ça dans sa vie, dans une vie où on n'a pas encore, pas à l'âge adulte, on n'est plus trop dans l'enfance, à 12 ans et demi, 13 ans, on commence à voir des choses se dessiner. Et c'est vrai que l'arrivée de mon premier petit frère était déterminante dans beaucoup de choses. C'était très fondateur pour moi. Et le deuxième aussi, d'ailleurs.
Ce qui est beau, c'est que vous avez réussi à vous réconcilier avec votre père avant la naissance de vos enfants.
Oui, bien sûr. Mais j'ai jamais été fâché au point d'en faire des choses dans les tabloïds. Mais il y a eu un... C'était important, bien sûr.
Réconciliation avant la naissance de vos fils.
C'était très important. À mon sens, il ne fallait pas que mes enfants puissent porter un quelconque fardeau extérieur. Voilà. Donc voilà, puis c'était très bien. Et aujourd'hui, les choses sont très belles. Il y a une chanson dans l'album qui évoque aussi un petit peu ça, d'une manière un peu indirecte, qui s'appelle « J'ai croisé ton fils ».
On va l'écouter.
Au fait, j'ai croisé ton fils. Il se demande ce que tu deviens. Il se demande si tu existes. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il se demande ce que tu deviens. Il se demande où tu glisses.
Qu'est-ce qu'il est joyeux, cet album.
Non, mais c'est vrai, parce qu'on évoque ces sujets-là. Bon, mais c'est deux copains qui se parlent de manière... comme deux copains se parlent, des vieux copains d'enfance, et il y en a un qui va voir l'autre et qui lui dit « Est-ce que t'es pas vraiment en train de faire le con, quoi ? Ton fils se marie dans une heure, et qu'est-ce que tu fous là ? Cette fâcherie sert à rien. » C'est une chanson sur la fâcherie, au fond, sur l'inutilité totale de la fâcherie, parce que dans votre vie, dans votre entourage, dans vos expériences, que ce soit dans l'histoire avec un grand H ou dans l'histoire personnelle, il n'y a aucune fâcherie qui servent à quelque chose, une fâcherie longue. Il n'y a jamais de fâcheries longues qui ont amené à quelque chose. Se dire les choses, se parler, se regarder dans les yeux, se griffer, se déchirer, s'insulter, se frapper, oui, parce que là, il faut... Et puis ensuite, les routes peuvent se séparer. Mais rester fâché longtemps,
ça ne sert à rien, parce qu'un des deux va partir avant l'autre, et l'autre va regretter, ou alors on va se parler trop tard, et on va se dire, on aurait pu le faire avant. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la relation, quel que soit le rapport, quel que soit le contexte, quel que soit le milieu, ne pas se parler est stupide. Donc, c'est un peu une chanson là-dessus, et elle se termine... C'est une chanson très particulière, parce que quand je commence à l'écrire, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi, je suis sous la pluie en Provence, il pleut, je suis dans ma remise en train de jouer au piano, puis j'ai peut-être écouté Johnny Cash toute la journée, donc du coup je suis dans un truc un peu plus country, ou un peu plus d'envie de raconter des mots comme ça, qui viennent tout seul, et je raconte ce gars qui va parler à un autre, et je ne sais pas trop où je vais, et c'est à la dernière phrase, au dernier mot de la chanson, que je comprends que j'ai écrit quelque chose de beaucoup plus personnel que ce que j'attendais.
On a l'impression, Patrick Bruel, quand même, que tout ce que vous touchez, ça marche quand même. Parce que vous faites de l'huile d'olive, elle est médaillée. Vous jouez une pièce de théâtre, vous jouez jamais au théâtre. 10 mois, guichet fermé, et puis après un film, 5 millions d'entrées. Vous avez eu des échecs quand même dans votre vie un peu.
Oui, bien sûr, heureusement qu'il y a des échecs. Sinon, on n'apprécierait pas les succès.
Il y a eu des fois où vous avez été rejeté par des metteurs en scène, vous avez été refusé dans la Boom 2 parce qu'ils ont dit que vous ne feriez pas assez rêver les filles pour faire le petit copain de Sophie Marceau.
Ouais, je les avais beaucoup fait marrer aux essais, en tout cas. J'avais fait des essais qui étaient très réussis parce que c'était drôle, c'était très très drôle ce que je faisais. J'ai même revu les essais, c'est vrai que c'était drôle. Et à la fin, ils hésitaient entre Pierre Cosso et moi et c'était logique, ils ont pris un garçon qui est physiquement et plastiquement était splendide, donc c'était ce qu'il voulait. On se construit sur les échecs, bien sûr. Il y a eu des films où
vous deviez faire la Reine Margot aussi.
Ouais, j'aurais adoré faire la Reine Margot, franchement. Puis on m'avait fait croire que je le ferais vraiment jusqu'au bout.
Jusqu'à, et ils ont changé d'avis.
Jusqu'à me mettre en couverture des journaux avec Isabelle Adjani. Donc c'est vrai que c'était un très beau rôle. Puis ça a été chouette. Puis Navarre, Henri de Navarre, ça me correspondait beaucoup. J'aurais vraiment aimé le faire, mais le film a été très réussi et pas besoin de moi. Les films vont à ceux qui doivent les faire, c'est un peu l'histoire du cinéma, c'est comme ça, puis j'en ai fait d'autres.
Ouais, vous vous êtes rattrapé avec les diplômés du dernier rang, par
exemple. Non, justement, je l'avais fait avant, c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait la Margot.
Je vous présente quelqu'un qui voudrait des conseils pour être un séducteur comme vous, c'est Ben H.
Mais il a pas trop de soucis à se faire, lui.
Oui, vous le voyez. Hein.
Je suis ce midi face à une de mes idoles, Patrick. Alors oui, j'écoute régulièrement vos grands classiques, Patrick Bruel, mais il faut bien reconnaître que ce qui me fascine le plus chez vous, disons-le, c'est votre pouvoir sur la jante féminine. Hein. J'ai vu les images, Patrick, quand vous apparaissez, les femmes crient « Patrick !» alors que moi, quand j'apparais, les femmes crient simplement « C'est qui ?» Preuve en est, chaque matin, quand j'entre dans ce studio... Ouais, elle crie, c'est pas mal. Preuve en est, quand j'entre dans ce studio, chaque matin, au niveau des femmes du public, je sens qu'il se passe rien, à peu près. Hein. Alors que quand vous êtes entré, on n'avait pas vu autant d'excitation dans le public depuis l'avenue de Drucker, ou avant l'émission. Hein, quand on a annoncé votre venue, une femme du public s'était criée, crevant littéralement de désir. « Il me plaît bien, ce petit jeune hein. !» Méfiez-vous, Patrick Bruel. La dernière fois, Michel avait fini par signer un autographe sur une gaine. C'est comme ça. Vous êtes de ces hommes dont les femmes crient le nom sans que vous n'ayez à les toucher. Moi-même, quand je les touche, au mieux, elle se trompe de nom. Bref, pour le charmeur maladroit que je suis, vous êtes une sorte de modèle, Patrick Bruel. Quel est le secret de ce magnétisme? Comment devient-on Patrick Bruel? Il y a aussi ce physique. Hein, ce physique. Un jour, vous avez même dit avoir été déçu d'avoir pris une doublure pour une scène de nu. Car la doublure...
J'ai pas pris. Je l'ai pas pris.
Non, mais quelqu'un l'a pris.
Ils l'ont pris dans mon dos, si j'ose dire.
Et vous étiez déçu parce qu'il était moins bien gaulé que vous.
Mais c'est même d'abord un, oui.
C'était dans quel film Bogos,
mais non, mais c'est épouvantable. Vous savez, ils ont pas le droit de faire ça, ils l'ont fait. Et j'aurais pu même. J'ai pas voulu foutre le bordel, mais c'était n'importe quoi. De prendre un gars, parce que la scène, je devais me balader nu dans Paris à 4h d'après-midi sous les yeux de Sophie Marceau qui, à ce moment-là, voyait les hommes plus nus qu'ils n'étaient. Enfin, c'était le sujet du film. Ce n'était pas un grand film, hein. Ce n'est pas le film le plus réussi de ma carrière. Probablement. Allez, on peut le dire. Hein, vous me parlez d'échecs, tiens. D'ailleurs, celui-là, bref.
C'était tu veux ou tu veux pas, c'est ça?
Bah, c'est ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu. Et on comprend pourquoi. Mais en l'occurrence, voilà, pour cette scène-là, sous prétexte qu'il ne fallait pas que moi, je me retrouve à 4h d'après-midi dans une rue Porte d'Auteuil et que ça allait gêner la production sans me demander mon avis,
ils ont pris une doublure
et ils ont mis ce gars-là pour faire ça. Et quand j'ai vu, déjà, j'ai pas trouvé ça cool de le faire sans me le dire. Et même si le gars avait été un Apollon, j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Mais en l'occurrence, c'était pas un cadeau. Hein.
Bah, c'était Pierre Cosso juste après la Boum.
Mais alors, vous avez pas eu Sophie Marceau à la Boum, vous avez pas eu Sophie Marceau. Il y a un vieux karma, peut-être à la retraite.
Je crois que c'est mal barré là.
Non, mais c'est quand même assez particulier.
Je vous ai interrompu quand même. Hein. Oh, c'est pas
du
cool.
Tout, pas du tout.
Le mec interrompt la chronique.
Il y a pas de problème. En tout cas, moi, c'est pas le truc que je ferais. Hein, parce que pour trouver une doublure moins bien gaulée que moi, il faut aller chercher dans le royaume animal à ce niveau-là. Un flamant rose.
Je pense que son humilité est son arme principale.
Ah, oh, merci.
Il fait, il fait genre la petite chose.
Je vais changer de bord, Patrick.
Fishing for compliments.
Ouais, c'est ça. Il fait le petit poussin perdu dans la forêt, pas du tout.
Voilà.
Moi aussi, je connais des choses sur lui et...
Et enfin, reprenons cette chronique.
Et en fait, j'ai beau lister vos qualités, je sais ce qui nous différencie clairement, Patrick. Hein, ce qui me manque par rapport à vous, en fait, c'est la classe, Patrick Bruel. Il réussit tout ce qui touche, chanteur, acteur, joueur de poker. Cet homme arrive même à s'entendre avec son ex. Je ne comprends pas. Vous êtes engagé auprès de nombreuses causes, c'est dingue. Et détail ultime qui ne trompe pas. Même quand on vous pose cette question, que feriez-vous, Patrick Bruel, si vous étiez une femme pendant 24 heures? Eh ben, Patrick Bruel, il répond, je chercherai à mieux comprendre les hommes. Bruel, soit vous êtes un énorme tchatcheur, soit vous êtes l'homme le plus classe du monde. Parce que moi, si je suis une femme 24 heures, je perds déjà la moitié de la journée à me toucher les seins. Hein? Bah oui. Et l'autre moitié, je cherche pas à les comprendre, les hommes, j'essaie de m'en taper. Hein? Quoique je ne sais si c'est pas finalement la même chose. Bref, voilà, c'est ça, Patrick Bruel, c'est la classe. J'ai du chemin pour vous rejoindre, place des grands hommes. Mais d'ici là, si vous avez des conseils pour un jeune séducteur, Patrick Bruel, je suis preneur. Alors, a priori, ne changez rien.
Ça marche.
Et merci des compliments.
Donc vous avez un film qui sort bientôt, Patrick Bruel ?
Je suis en tournage. Je suis en tournage d'un film réalisé et écrit par l'équipe qui a fait le prénom. Et ça s'appelle Le meilleur reste à venir. C'est avec Fabrice Lucchini et moi. Et en vous quittant, d'ailleurs, je pars sur le plateau de tout à l'heure. Et on a commencé depuis deux semaines. Et c'est un régal de retrouver mon copain, mon complice de prof, en fait. Je retrouve le Fabrice Lucchini de prof, auréolé de tout ce qui s'est passé pour lui depuis. Voilà, et nos parcours sont... C'est assez joli tout ce qui s'est passé. De nous retrouver là-dessus, c'est un très très beau sujet, très beau film qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup rire et probablement verser quelques larmes. C'est bien foutu, ouais. C'est très très chouette.
Ah, mais quelle carrière, hein. Tu le ramènes moi ta gueule, Pierre Cosso, hein.